Je me suis proposé de rédiger le récit de cette guerre à l'usage de tous les sujets de l'Empire romain, en traduisant en grec la relation composée dans ma langue maternelle que j'avais précédemment envoyée aux barbares des autres régions, moi, Joseph, fils de Matthias, prêtre de Jérusalem, qui, au début de la guerre, est combattu personnellement contre les Romains et qui, par la force des choses, est assisté à la suite des événements. Flavius Joseph, La guerre des Juifs, livre 1.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Les premiers contacts entre le monde juif et Rome remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ, au moment de la révolte des Maccabées, où les révoltés juifs contre Antiochos IV de Syrie avaient reçu l'appui du Sénat romain. Mais c'est surtout à partir de 63 avant Jésus-Christ que Rome, qui désormais domine la Méditerranée orientale, s'occupe directement des affaires juives. Pompée était entré en Jérusalem, il avait même violé le Saint des Saints, et donc Rome avait décidé à ce moment-là de nommer des rois clients qui servaient ses intérêts dans la région. Et le plus connu de ces rois clients, c'est Hérode le Grand, celui qui nous est connu entre autres par des allusions dans les évangiles. Mais en 6 après Jésus-Christ, soit une dizaine d'années après la mort d'Hérode, l'empereur Auguste, mécontent de ses successeurs, avait décidé de nommer un administrateur, un préfet, afin d'administrer une nouvelle province du monde romain, la Judée. Parmi ces préfets, le plus connu est bien sûr Ponce Pilate. Mais la domination romaine était plus ou moins bien acceptée. En effet, depuis la fin du 1er siècle au moins, il y avait un sentiment messianique. Le peuple juif attendait un libérateur qui restaurerait la royauté d'Israël et qui chasserait l'occupant. D'autre part, la politique romaine dans la région était fiscalement lourde. En effet, les préfets, puis les procurateurs à partir du règne de Claude, avaient la main lourde en matière d'imposition, d'autant plus qu'ils ne se gênaient pas pour détourner une partie de cette fiscalité à leur propre profit. Il fallut donc attendre des incidents pour que la révolte éclate. Ces incidents eurent lieu en 66 après Jésus-Christ. Premier incident, un sacrifice païen qui est organisé devant la synagogue de Jérusalem. D'autre part, une partie des fonds destinés au temple est détournée par Gaius Florus, procureur de Judée, ce qui évidemment provoque la colère des Juifs. Et enfin, les Juifs répliquent en ordonnant de ne plus faire de sacrifice pour le salut de l'empereur au temple de Jérusalem. Cette décision provoque l'embrasement général, la Judée se soulève contre l'autorité romaine. Dans un premier temps, les Romains sont surpris et ont du mal à remettre de l'ordre dans la province. Le légat de Syrie, Sestius Gallus, arrive avec sa 12e légion, mais est défait, perdant le contrôle de la province. La petite garnison romaine qui restait à Jérusalem a dû l'évacuer, ce qui fait que l'on a le sentiment que les Juifs, dans un premier temps, gagnent effectivement sur le terrain militaire. Mais les circonstances de la vie politique à Rome favorisent aussi la révolte. En effet, Néron est obligé de quitter le pouvoir de manière brutale, puisqu'il se suicide en juin 1968, face aux révoltes de plusieurs de ses gouverneurs en Occident, en Espagne et en Afrique tout particulièrement. Ce qui fait que la guerre civile qui suit la mort de Néron laisse finalement le pouvoir romain sans véritable direction pour combattre la révolte. Mais une fois que Flavius Vespasianus arrive au pouvoir en 69, Rome va se donner les moyens de remettre de l'ordre en Judée. L'empereur ordonne à son fils Titus de récupérer le terrain perdu. Titus bénéficie de 4 légions, plus de troupes auxiliaires, plus également de troupes venues d'Égypte. C'est au moins 60 000 hommes, peut-être 80 000, qui se retrouvent en Judée pour écraser la révolte. Ainsi, Titus met le siège devant Jérusalem peu avant la Pâque 70. Le siège est indéniablement difficile. Écoutons ce qu'écrit Tacite à ce sujet. Le nombre des assiégés, de tout âge, hommes et femmes, était, nous a-t-on dit, de 600 000. On avait donné des armes à tous ceux qui pouvaient les porter, et il y avait, pour montrer de l'audace, plus de gens qu'on en eût attendu dans le nombre. L'obstination était égale chez les hommes et chez les femmes, et s'ils devaient être contraints de changer de patrie, ils redoutaient plus la vie que la mort. C'est contre cette ville et contre ce peuple que César Titus, puisque l'assaut et les chances soudaines de la guerre lui paraissaient refusées par la solidité de la position, résolut de combattre en employant les terrasses d'approche et les mantelets. On partage la tâche entre les légions et les combats cessèrent jusqu'à ce que furent mis en place tous les moyens imaginés par les anciens pour l'attaque des villes et toutes les inventions du génie moderne. En effet, face à la résistance de Jérusalem, Titus s'est donné les moyens de parfaire le siège de la ville et de prendre progressivement les diverses positions. Les premières murailles de Jérusalem sont franchies le 25 mai de l'an 70. Cinq jours plus tard, les légionnaires parviennent à s'emparer d'un second rempart de la ville. Reste que la forteresse Antonia et également le temple sont des lieux de résistance extrêmement vivaces. Ce qui va jouer en faveur des Romains, c'est qu'à l'intérieur de la ville, il y a division parmi les combattants. Il y a des modérés qui voudraient éventuellement essayer de négocier avec Rome, alors que d'autres, surtout formés par des zélotes, c'est-à-dire par des nationalistes les plus acharnés de ce monde juif, ne veulent entendre parler que de victoire ou que de mort. Bref, il va falloir continuer le siège. Ce siège, évidemment, plus il dure, plus il fait des ravages. Rendons la parole à Flavius Joseph. Les terrasses étaient encombrées de femmes et de petits-enfants exténués, les ruelles de vieillards morts, des garçons et des jeunes gens errés comme des fantômes, le corps tuméfié. Sur place, ils tombaient là où le fléau de la faim les accablait. Les malades n'avaient pas la force d'ensevelir les cadavres de leurs proches. Ceux qui étaient encore vigoureux différaient ce soin, effrayés par la multitude des cadavres et l'incertitude de leurs propres sœurs. Beaucoup tombaient morts sur ceux qu'ils ensevelissaient. Beaucoup, avant que fût venu pour eux le moment fatal, succombaient dans ce labeur. Effectivement, la famine fit des ravages. Et au mois d'août de l'an 70, la fin est proche. Mais pour les légionnaires, cela faisait 3 mois. Que le siège durait, sous une chaleur de plus en plus accablante. Ce qui fait que, à partir du moment où ils sont parvenus à prendre pied sur le temple, le vénérable temple de Jérusalem, celui où l'on radait le culte à Yahvé, celui que Hérode le Grand avait particulièrement embelli, eh bien, les légionnaires se mirent à détruire le temple. Il y a là d'ailleurs une incertitude. Est-ce que cette destruction a été voulu par Titus, qui en aurait donné l'ordre, ou est-ce finalement la soldatesque qui, dans une espèce de fureur liée à la durée et à la dureté du siège, a voulu finalement se venger en détruisant le vénérable temple de Jérusalem. Il est difficile de trancher. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que même s'il n'a pas donné l'ordre, Titus n'a pas voulu essayer de rétablir l'ordre au travers de ses troupes pour empêcher la destruction totale du temple. Ainsi, le temple est détruit au début du mois de septembre de l'an 70. Quelles en sont les conséquences immédiates et à long terme? La prise de Jérusalem et la destruction du temple marquent indéniablement le retour à l'ordre. Il ne reste plus que la forteresse de Masada, au sud-est de Jérusalem, le long de la mer Morte, sur un piton rocheux qui avec à peu près un millier de défenseurs, s'est rendu qu'en 73. Ou d'ailleurs, le mot « se rendre » est inapproprié, puisque Flavius nous explique que les légionnaires, prenant Massada, n'ont trouvé que des hommes et des femmes qui avaient préféré se donner la mort plutôt que de tomber vivants et prisonniers des Romains. Donc, on peut estimer qu'en 73, la révolte débutée en 66 est effectivement terminée. Mais sur le plan de la culture juive, de la mémoire juive, la destruction du temple n'est pas sans conséquences. Car le temple, pendant des siècles, a été au cœur de la religion juive. C'était là, effectivement, où se trouvait le Saint des Saints, où le grand prêtre entrait une fois l'an pour demander pardon des fautes du peuple lors de la fête de Yom Kippour. Mais sans temple, que va-t-il se passer ? Eh bien, en fait, la religion juive va perdurer, mais grâce aux synagogues. C'est-à-dire que le réseau de synagogues, qui finalement s'est construit tout au long de l'histoire antique autour de la Méditerranée et jusqu'en Mésopotamie, a permis à la foi juive de perdurer malgré la destruction du temple.